En plein jour, place Tiananmen, un petit groupe de personnes s'installe rapidement en prenant des postures de méditation chinoise ou s'asseyant en position du lotus. Certains déploient des bannières sur lesquelles il est inscrit les caractères chinois Falun Dafa et Ba. Parfois, ils sont des centaines, voire des milliers à y aller, bien conscients des réprimandes violentes qui les attendent. Ils risquent tout, la perte de leur maison et de leur emploi, l'arrestation, la torture et même la mort, simplement pour défendre leur foi. Ils viennent jour après jour, de Chine ou d'ailleurs, jeunes ou vieux, éduqués ou illettrés, riches ou pauvres, hommes ou femmes, pour demander au gouvernement chinois qu'ils mettent fin à la persécution de leur pratique spirituelle, le Falun Gong. Pour un observateur extérieur, ils peuvent paraître comme des fanatiques, des mystiques, des anormaux et même des déséquilibrés mentaux. Les médias ont souvent véhiculé cette perception péjorative au sujet de ces gens, de leurs croyances et de leur mode de vie. Toutefois, en examinant l'histoire, nous pouvons voir que dans le passé, des actions similaires à ceux des pratiquants du Falun Gong ont été également mal comprises. Les martyrs chrétiens, à leur époque, étaient accusés de faire partie d'une secte. Leurs contemporains considéraient qu'ils étaient trompés, mais aujourd'hui, ils sont respectés. Quand nous faisons incursion dans l'univers de ces gens, nous sommes plus aptes à comprendre ce qui les motive à risquer leur vie pour défendre les valeurs humaines et tenter de sauver leurs proches qui sont victimes de persécutions. La lecture des textes du christianisme et du Falun Gong démontre que tous deux considèrent leur persécution de façon similaire. Ils la perçoivent comme un affrontement entre les principes justes de la vérité, la compassion, la tolérance, contre des agissements erronés. Ils voient leurs actions comme partie prenante d'une scène plus vaste, défendant leurs croyances en des valeurs qui sont inhérentes à la moralité humaine. Les textes chrétiens du IIe siècle, sous le règne de Marcus Aurelius, décrivent la persécution de Blandina de Lyon et Perpétua de Carthage. Elles furent torturées à mort simplement pour avoir refusé de faire des offrandes d'encens au dieu de la ville. Elles ont dû subir plusieurs types de tortures, être battues, être séquestrées dans des cellules surpeuplées, s'asseoir sur une chaise de fer brûlante, être lancées en pâture aux bêtes, etc. Leur refus de faire un geste qui semble si peu important et de mourir pour leur choix a représenté une source de mystère et de confusion pour plusieurs à travers le temps. Pourquoi seraient-elles prêtes à mourir pour défendre leur foi? Ne se vengeant jamais contre leurs partenaires, refusant la haine et la violence en toutes circonstances. Si nous pénétrons dans leur univers, nous allons peut-être percevoir les choses sous un autre jour. Nous pourrions comprendre que leur détermination à soutenir la non-violence provient d'une profonde paix intérieure, de leur conviction morale, ainsi que de leur conception du monde qui les entoure. Pour eux, ce n'était pas un combat entre les chrétiens et leurs persécuteurs, mais entre la miséricorde et la haine. Les paroles de Perpétua démontrent sa compréhension.
J'ai pris conscience que je ne devrais pas me battre avec des bêtes, mais avec le diable. Et ainsi, je savais que la victoire m'appartenait.
Elle percevait cette persécution comme une lutte entre deux types de principes, un qui s'oppose à la moralité humaine et l'autre qui la soutient. Elle considérait que malgré tout, si elle ne s'adonnait pas à la peur ou à la violence, ce sont véritablement la bonté et la patience qui se manifesteraient et triompheraient sur le reste. Aujourd'hui, la même conception motive les pratiquants du Falun Gong. Il est clair qu'il existe des différences quant au temps, aux lieux et aux croyances. Toutefois, la vision des pratiquants de Falun Gong sur leur persécution et leur souffrance est très similaire à celle des martyrs chrétiens. Un regard sur la présente situation à la lumière des événements historiques nous permet de mieux comprendre leur point de départ.
Les pratiquants de Falun Gong ont expérimenté des horreurs semblables à celles subies par les martyrs du christianisme. Ils ont souffert d'être battus, brûlés par des matraques électriques, violés, attaqués par des chiens policiers, etc. Selon des rapports d'Amnesty International, plusieurs milliers de pratiquants ont été torturés à mort parce qu'ils ont refusé de renoncer à ce en quoi ils croyaient. Un exemple de cela est Chun Zichu. Son histoire a été rapportée en avril 2000 par Ian Johnson, un journaliste du Wall Street Journal.
Le jour avant sa mort, les gardes qui la détenaient lui ont demandé de renoncer à sa foi dans le salon d'affaires. À peine consciente, après plusieurs chocs venant des matraques électriques, la femme de 58 ans a fermement refusé en secouant la tête. Enragée, les fonctionnaires locaux ont forcé Mme Chun à courir pieds nus dans la neige. Ces deux jours de torture ont laissé ses jambes blessées et ses cheveux courts, couverts de pus et de sang. Elle rampa jusqu'à l'extérieur, vomit, puis s'effondra. Elle ne reprit jamais conscience et mourut le 21 février.
Ceci est une histoire parmi plusieurs autres. D'après un rapport de l'Organisation pour les droits humains, Human Rights Watch, des milliers de pratiquants ont enduré des châtiments inimaginables venant de la part des autorités, incluant des viols, des intoxications avec des drogues, des mutilations et plusieurs autres formes de torture mentale et physique. Les pratiquants de Falun Gong refusent souvent de révéler leur identité à leurs oppresseurs. Ils agissent de la sorte pour protester contre leur arrestation et pour ne pas laisser la chance aux autorités d'étendre les mauvais traitements à la famille ou aux amis des pratiquants. Quand ils se font demander leur nom, certains répliquent « vérité, compassion, tolérance », les trois mots qui décrivent les principes de base du Falun Gong. Même après de sévères tortures, sans dévoiler leur identité, ils s'identifient en déclarant « Je suis un pratiquant du Falun Gong ». Quand on leur demande d'où ils viennent, plusieurs répondent « Je viens de l'univers ». Tout comme les martyrs chrétiens, ils refusent d'obéir à l'oppresseur en soutenant avec une calme assurance leur conception du bien. Dans une perspective plus récente, n'est-ce pas un comportement rapproché de celui de Gandhi ou même de Martin Luther King? Comme plusieurs chrétiens, lorsque leurs croyances fondamentales sont mises en jeu, les pratiquants ne voient pas la mort comme quelque chose que l'on doit craindre. Zhang Qiying, une pratiquante du Falun Gong ayant été incarcérée en Chine pour ses croyances, a résumé ceci en disant que « la vie dans ce monde est très précieuse, mais un pratiquant authentique sera prêt à sacrifier sa vie pour défendre la vérité ». Depuis le début de cette persécution, les raisons pourquoi plusieurs personnes en Chine défendent le Falun Gong avec tant de détermination n'ont pas été éclaircies. En marchant dans les pas des martyrs, il nous est permis de mieux comprendre leur vision des choses. Il semble qu'ils ne soient pas des victimes manipulées et aveuglées par leur foi, mais plutôt des individus qui mettent en pratique leurs croyances en des principes justes au risque de paraître étranges. Ils ne sont pas des fanatiques ou des membres d'une secte, mais des gens qui ont été profondément transformés par leurs croyances en la moralité humaine, transformés par des principes universels du bien, qui sont prêts à défendre avec détermination. Selon leur témoignage, ils acquièrent par la pratique une profonde paix intérieure et une compréhension plus grande de leurs objectifs de vie. Ils soutiennent que ni la force extérieure, ni les tortures physiques ou psychologiques, ni même le meurtre ne peuvent changer le cœur de l'homme. Ils veulent donc rester authentiques et appliquer ces principes en toutes circonstances. Les pratiquants du Falun Gong qui endurent maintenant la persécution en Chine depuis plusieurs années feront un jour partie de l'histoire tout comme les martyrs chrétiens. Comme pour tout fait historique, éventuellement, les gens réfléchiront sur ce génocide. Il est à espérer qu'à ce moment, nous aurons une meilleure compréhension de ces événements et une détermination aussi solide quant à l'importance de défendre les principes fondamentaux de la moralité humaine, la vérité, la compassion et la tolérance.